Good Morning Business. Le débat.
Avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Alors, on a vu que le pouvoir d'achat s'est invité dans cette campagne présidentielle. C'est le sujet économique de la campagne. Mais enfin, c'est gentil tout ça, mais le pouvoir d'achat, ça se décrète pas dans un ministère ou même à Matignon, oui, ni à l'Élysée, ça se décrète dans les entreprises.
C'est pas mal de le rappeler, je pense que c'est l'un des deux enjeux de cette journée. Le premier enjeu, il va falloir connecter les candidats aux chefs d'entreprise. Là, on a une litanie de promesses qui, sur décision politique, vous augmente votre salaire. Voilà. On a l'impression que le pouvoir d'achat va se décider à l'Élysée et que le mode opératoire va se décider à Bercy. Tandis que le pouvoir d'achat, il va venir du travail. D'ailleurs, c'est quand même l'une des pierres angulaires du message de Fabien Roussel, le communiste. Si vous voulez du pouvoir d'achat, il faut travailler. Si vous voulez travailler, il faut un emploi. Alors, on peut être indépendant, mais quand même, l'entreprise, l'emploi et le contrat de travail, ça reste dominant dans notre pays. Ça va être l'occasion de se poser la question, justement, de comment est-ce qu'on va créer ce fameux pouvoir d'achat. Et donc, il est temps que les candidats livrent à des chefs d'entreprise leur vision de l'entreprise, et pas simplement leur vision du pouvoir d'achat. C'est pour ça que 450 chefs d'entreprise, ce matin, vont pouvoir écouter et débattre avec Yannick Jadot, avec Valérie Pécresse, avec Anne Hidalgo, avec Fabien Roussel, avec Éric Zemmour, avec Marine Le Pen. Et à mon avis, le deuxième enjeu, c'est d'essayer de les différencier un petit peu, ces candidats. Parce que si vous regardez à grands traits l'offre politique sur le terrain économique qui nous est faite, c'est une France pour tout le monde qui a plus de pouvoir d'achat. C'est une France qui pour tout le monde a plus d'industrie. C'est une France qui pour tout le monde a moins de carbone, qui pour tout le monde aura probablement moins d'inégalités de destin. Et tout ça parfaitement dans la zone euro, car la notion de Frexit a totalement disparu.
Mais une France qui ne travaille pas forcément autant d'un candidat à l'autre.
Alors, il y a encore un dernier point commun extraordinaire que j'ai jamais vu à ce point-là, c'est que le financement des programmes, l'efficacité de la dépense publique, la montagne de dette qui va avec, tout le monde s'en fout.
Tout le monde fait la
passe. Ça n'est plus un sujet. Le quoi qu'il en coûte a totalement fait disparaître la question de la dépense publique, de l'importance de la dépense publique. À ce point-là, j'avais jamais vu ça. Alors après, effectivement, il va falloir regarder si des clivages existent encore. Si vous prenez par exemple sur le salaire, on va revoir ceux qui sont plutôt sur l'idée qu'on baisse les cotisations, mais c'est un choix politique, ou ceux plutôt à gauche qui ont envie d'augmenter le SMIC, jusqu'à Nathalie Arthaud qui pense mettre le SMIC à 2000 euros net, ce serait une hausse de 60%, mais là encore c'est un choix politique. Si on prend la retraite, globalement à gauche, on va dire qu'il faut travailler moins, pas davantage. À droite, on va plutôt dire qu'il faut travailler plus. Vous prenez l'ISF, à gauche, on a tendance à vouloir le ressusciter par endroits, voire même l'augmenter. À droite, on en restera à sa forme actuelle, l'impôt sur la fortune immobilière. Et généralement, ce qui domine, c'est qu'on augmente l'abattement de la résidence principale de 30 à 50%, voire une exonération totale. C'est pareil sur les successions. Les successions à gauche, on se dit, les gros patrimoines, on va les taxer pour redistribuer. Et à droite, on est quand même plutôt sur l'idée qu'on va alléger les droits de succession, alléger les délais de donation au nom du fruit du travail d'une vie. On prend la fiscalité des entreprises. L'entreprise à gauche, je suis désolé, mais c'est vu quand même comme un enrichissement. Un enrichissement qui, d'une manière ou d'une autre, devra se redistribuer. Et on a plutôt tendance à vouloir taxer les entreprises. La position à droite, c'est pas la même. On est plus sur la compétitivité, sur l'idée justement qu'il faut alléger les prélèvements des entreprises pour leur permettre d'investir, de créer des emplois. Et puis, il y a un dernier élément, c'est les nationalisations. On a une tendance à vouloir nationaliser qui est assez présente à gauche, les autoroutes, même certains vont jusqu'à nationaliser les banques, les assureurs. L'État doit être dominant, l'État doit être central. Alors à droite, on a toujours le même discours, même si on ne le fait jamais. Il faut baisser les dépenses, faire reculer la sphère publique pour réduire les prélèvements obligatoires. C'est un discours de droite classique, c'est un discours de droite qu'on nous serine depuis des années, mais pour l'instant, jamais, personne n'a engagé les mesures concrètes par rapport à ça.
Alors Jean-Marc Daniel, c'est vrai que c'est curieux un peu cette acculture économique, puisque tous les candidats, y compris de droite, annoncent des augmentations de salaire aux Français.
Oui, alors ce qui est intéressant, vous savez, les deux niveaux des campagnes électorales, selon Tony Blair, c'est la phase poétique qui est la phase de la campagne, et puis la phase en prose qui est la gestion. Et donc je pense que l'intérêt des entreprises, c'est d'essayer de ramener les poètes que nous allons voir défiler sur notre plateau à des prosateurs, de leur dire un certain nombre de réalités. Et donc effectivement, parmi ces réalités, je crois qu'il y en a une qui est évidente, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a disparu effectivement des angoisses, mais la traduction naturelle du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire une politique budgétaire inconsidérée, débouche sur du déficit extérieur, selon le FMI. Et on est typiquement dans ce cas. Et donc, on est dans une contradiction où tout le monde parle de pouvoir d'achat dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Donc, la grande crainte que doivent avoir les entreprises, c'est que qui va payer in fine, quis pagit, comme on dit dans les pièces latines, qui paye in fine. La grande tentation, c'est de dire, ce sont les entreprises, ce sont les dividendes, ce sont les gens qui s'enrichissent en dormant. Tout ce discours sur l'entreprise, qui est un discours qui avait disparu dans les années 90 et qui se met à réapparaître un peu, y compris dans certains certains candidats de droite, extrême droite, en disant les dividendes sont absolument excessifs et tout ça. Alors, je crois que les entreprises doivent dire deux choses. La première chose, c'est fondamentalement, il faut travailler plus pour gagner plus, c'est effectivement le message, Nicolas l'a dit, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.
Elles le disent beaucoup, elles parlent notamment de la durée du travail, soit sur l'année, soit effectivement sur une vie, et ça c'est intéressant de poser les deux questions.
Absolument, et rappeler en particulier à quelqu'un que nous ne verrons pas parce qu'il n'est pas candidat, pour l'instant, Emmanuel Macron, qui quand il était ministre de l'économie, était venu à l'université d'été du MEDEF, et avait déclaré à propos des 35 heures, que c'était une idée totalement surprenante, voire absurde, de considérer que c'était en travaillant moins qu'on pouvait améliorer la situation. Et le bien-être. Et
puis, sauf que l'enjeu, c'est plus tellement les 35 heures. Même Geoffroy Roux de Bézieux le dit, elles sont rentrées dans les mœurs, elles ont été adoptées, assouplies. En revanche, jusqu'à quel âge on travaille, voilà. Et combien d'heures par an, combien de jours par an et d'heures par an on travaille, c'est la vraie question.
Oui, je pense que la retraite, et puis l'idée d'introduire effectivement un assouplissement dans la vie, dans la carrière, c'est-à-dire avoir des années sabbatiques qui se traduisent par un report de l'âge de départ à la retraite, être assez imaginatif dans cette évolution du temps de travail sur la base du fait qu'il faudra travailler davantage. Et puis le deuxième élément, ce que je donnerais comme conseil aux chefs d'entreprise, c'est d'insister sur ce que disait Le Genre, dont il était le prévôt des marchands au XVIIe siècle à Bordeaux, qui avait été reçu par Colbert. Et Colbert lui avait dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et Le Genre lui avait répondu « Oubliez-moi. La meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, c'est oubliez-moi, laissez faire, laissez passer. » Que les entreprises demandent aux politiques d'être le moins interventionniste et le plus libéral possible, si tant est que ce mot ait encore un sens dans le paysage politique
c'est
actuel.
Ce que dit Jean-Marc, c'est pas toujours ce qui se passe, parce que il y a un peu le chef d'entreprise à deux visages. Je me souviens très bien, par exemple, d'une campagne de Laurence Parisot qui était à la tête du MEDEF, c'était besoin d'air, c'est exactement cette idée. Ne faites rien, laissez-nous faire, surtout rien. Et c'est un peu toujours la posture des chefs d'entreprise. La stabilité, de la lisibilité, laissez-nous travailler. Et en même temps, on a bien vu les prises de position des différentes organisations patronales où, éternellement, ils tendent la main quand même au pouvoir politique pour avoir des baisses de prélèvements obligatoires. Et là, on tient à la corde des impôts de production qui est vraiment devenu l'alpha et l'oméga de la compétitivité. On va dire que si on prend le camp patronal, on est sur une baisse d'impôts de production qui devra se situer entre 30 et 40 milliards d'euros par an.
Merci Nicolas et Jean-Marc.